Lire encore, chers amis, les quelques versets qui précèdent le verset 23e. Et reprenant la lecture au verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il tienne lui la première place. Car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui, si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Nous avons vu également, chers amis, avant-hier, ce que Dieu le Père a fait pour nous selon cette action de grâce que nous avons au verset 12. Dieu le Père a fait pour nous trois choses. Il nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Deuxièmement, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et troisièmement, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, chers amis, ce qui peut être la part de quiconque croit. Quiconque croit au Seigneur Jésus est rendu cela, capable de participer au lot des saints dans la lumière, il est délivré du pouvoir des ténèbres et il est transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et du moment que l'apôtre mentionne le nom du Fils de l'amour du Père, il nous dit ce que nous avons par son moyen, ce que nous avons dans le Fils de son amour. Qu'avons-nous? Trois bénédictions. Premièrement, la rédemption. Deuxièmement, la rémission des péchés. Et troisièmement, à la suite du tableau glorieux que l'apôtre nous donne, conduit par le Saint-Esprit, des gloires et des primautés du Seigneur Jésus, nous avons la réconciliation. Voilà, chers amis, ce qu'est un croyant. Il a la rédemption, la rémission des péchés, le pardon de ses péchés et la réconciliation. Un croyant est racheté, il est pardonné, il est réconcilié. Et à nouveau, nous posons la question qui a été posée avant-hier soir. Est-ce que nous avons tous l'assurance d'être ainsi au bénéfice de l'œuvre de la croix, de l'œuvre qui un jour a été accomplie en Golgotha, de l'œuvre du Seigneur Jésus qui a accepté de subir une telle mort, la mort expiatoire de la croix? Est-ce que nous avons tous mis notre foi et notre confiance en lui? Est-ce que ce soir nous pouvons tous dire, je sais que par lui je suis racheté, je suis pardonné, je suis réconcilié avec Dieu? Nous avons donc là trois bénédictions infinies que nous avons à cause du Fils, de l'amour de Dieu Père. Il est clair que du moment que nous parlons de bénédiction, rédemption, pardon, réconciliation, que nous avons à cause du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas parler seulement de sa personne. Nous devons parler de l'œuvre de la croix. Et c'est ainsi que dans les versets qui suivent le tableau des primautés du Seigneur Jésus, de sa double suprématie sur la création naturelle ou physique, de même que sur la nouvelle création, il est clair que nous devons parler de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et alors, tandis que l'apôtre nous parle de la réconciliation, et nous avons remarqué par notre lecture qu'il est parlé d'une double réconciliation, c'est-à-dire de la réconciliation des choses, et un peu plus loin de la réconciliation des personnes. Quand l'apôtre parle de la réconciliation des choses, que dit-il de l'œuvre de la croix? Verset 20, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Et quand il parle de la réconciliation des personnes, que dit-il au verset 21e? Il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par la mort. Il y a donc une double réconciliation résultant de l'œuvre de la croix. La réconciliation des choses, nous l'avons lu au verset 20, par lui a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Puis il y a la réconciliation des personnes, et vous, qui étiez autrefois ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort. Et en effet, chers amis, le jour vient où une telle réconciliation des choses sera vue. Tout l'univers appartient au Seigneur, et un jour, tout l'univers, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, seront vues comme étant parfaitement réconciliées avec Dieu lui-même. Cela, il l'a fait en vertu, cela est et existe en vertu de l'œuvre parfaite de la croix. Cette double réconciliation était déjà représentée au temps de l'économie lévitique. Si nous lisons, chers amis, le chapitre 16 du livre du Lévitique, ce chapitre que l'on a appelé le cœur du Pentateuque, est de fait, il se trouve exactement au milieu des cinq livres du Pentateuque, nous voyons entre autres ordonnances que Aaron devait prendre. Tout d'abord, un taureau et l'égorger et l'offrir en sacrifice pour le péché. Et il devait, avec le sang d'une telle victime, il devait faire propitiation pour lui-même et pour sa maison. Puis, il devait prendre une autre victime, il devait prendre un bouc qu'il devait également égorger et offrir en sacrifice pour le péché, et faire propitiation avec cette seconde victime, avec le sang de cette seconde victime, pour le peuple tout entier. Et avec le même sang de la même victime, il devait en même temps faire propitiation pour le sanctuaire lui-même, pour la tente d'assignation qui était là, dressée au milieu du peuple. Pour être un tout petit peu plus clair, nous pensons qu'il faut lire le verset qui nous dit cela, au verset 16 du chapitre 16 de ce livre du Lévitique. Nous lisons en effet au chapitre 16 du Lévitique et au verset 16. Au verset 15, il est donc parlé du bouc du sacrifice pour le péché qui était égorgé. Verset 16, « Et il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions selon tous leurs péchés. » Et il fera de même pour la tente d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Il y avait donc, chers amis, d'une part, Aaron, sa famille, le peuple tout entier. C'est là les personnes. Il y avait d'autre part, le lieu saint, la tente d'assignation, et tous les objets appartenant au tabernacle, et c'est là ce qui est appelé dans l'Épître aux Colossiens les choses. Propitiation devait être faite d'une part avec le sang du taureau offert en sacrifice pour le péché, pour Aaron et pour sa maison, et d'autre part avec le sang du bouc offert en sacrifice pour le péché, pour le peuple tout entier et en même temps pour le sanctuaire, et cela à cause des impuretés du peuple, de telle sorte que, pour ainsi dire, le sanctuaire lui-même était contaminé par les faiblesses, les manquements, les infidélités constantes de ce peuple au milieu duquel était dressé le sanctuaire. Eh bien, chers amis, nous avons là en figure ce qui est dit dans l'Épître aux Colossiens, dans notre chapitre, la réconciliation des choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, et puis la réconciliation des personnes quand l'apôtre, s'adressant aux frères de Colosse, peut leur dire « Vous étiez autrefois étrangers, vous étiez autrefois des pécheurs, vous étiez des ennemis dans votre entendement vis-à-vis de Dieu, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair, par la mort. » Le corps de sa chair, la mort. Le Seigneur Jésus a été vu un jour sur la terre tel qu'un homme. Il devait devenir un homme pour pouvoir souffrir, pour pouvoir mourir, pour laisser sa vie, pour laisser son précieux sang. Le Seigneur Jésus est descendu dans la mort, et c'est en vertu de sa mort, et évidemment de sa résurrection, que maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. Et si un jour, dans les faits éternels, il sera vu une pleine réconciliation de toutes les choses dans les cieux et sur la terre, de l'univers tout entier, ce ne sera qu'à l'œuvre de la croix que tout cela sera dû. De l'œuvre expiatoire de la croix et sera le fondement de cette réconciliation de toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, de l'univers tout entier. Peut-être, chers amis, que ce sont là des choses un peu difficiles à comprendre. Nous le comprenons nous-mêmes aisément. Ce sont cependant des vérités de la parole de Dieu et des vérités sur lesquelles nous devons nous pencher quand nous lisons, par exemple, un tel chapitre. La réconciliation avec Dieu, nous revenons un tout petit moment sur cette question de la réconciliation. Et nous nous sentons comme pressés de demander si chacun ici est absolument sûr, assuré d'être réconcilié avec Dieu. On ne peut pas l'être, chers amis, par un certain comportement, une certaine attitude, un certain accomplissement de devoirs religieux. Tout cela, c'est la parole de Dieu qu'il dit, tout cela est appelé, sinon des œuvres mauvaises, en tout cas des œuvres mortes. C'est des œuvres mortes, tout cela, et c'est pas par des œuvres que Dieu qualifie de mortes, provenant d'êtres qui sont morts dans leur faute, dans leur péché, qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu. Il n'y a qu'un moyen, c'est de croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu seras réconcilié avec Dieu. Avant-hier encore, nous avons rappelé cet appel d'Éliphaz à son ami Job au chapitre 22 de son livre, quand il lui dit, mais Job, réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix et le bonheur t'arrivera. Et nous avions remarqué ceci, que déjà 20 siècles avant que le Seigneur vienne sur la terre, nous avons l'évangile dans sa substance, l'évangile aussi dans sa simplicité. Ce soir encore, soyez réconciliés avec Dieu, nous aimons à le dire, et nous aimons également à rappeler cet appel pressant qui se trouve également dans l'Ancien Testament, à la fin d'un psaume. C'est le premier psaume dit messianique, le psaume deuxième. Quel est le grand sujet du psaume 2? C'est un décret. Le décret de Dieu lui-même à l'égard de la personne de son Fils bien-aimé, le Fils de son amour. Je raconterai le décret, est-il dit au psaume 2. Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et nous avons là l'un de ces psaumes de base, l'un de ces passages de base, et qui sert en même temps de fondement de toute une partie de la doctrine de l'Épître aux Hébreux, du chapitre 5 en particulier. C'est donc le sujet du psaume 2, le décret de Dieu à l'égard de la personne du Fils. Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et en présence d'un tel décret, nous nous inclinons, nous nous prosternons et nous répétons ce que nous avons chanté, cette adoration que nous avons exprimée tout au long de ce cantique 51. Mais, chers amis, il y a une conséquence pratique de ce décret. Le décret lui-même, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, il est là, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Mais c'est que Dieu, maintenant, après avoir ainsi parlé de son Fils, attend de l'homme que l'homme montre une attitude digne de Dieu à l'égard de la glorieuse personne de son Fils. Quelle attitude? Il y en a une. Cette attitude, c'est reconnaître toute la grandeur d'une telle personne. Et ce besoin que nous devons avoir tous, étant de pauvres pécheurs, d'être réconciliés avec lui-même. Et nous pensons qu'il vaut la peine encore de lire le dernier verset de ce psaume deuxième, qui est un appel. Mais un appel, chers amis, d'une force incomparable. Et il nous est dit, au verset douzième du psaume deuxième, après qu'il a été parlé du décret de Dieu à l'égard du Fils lui-même, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Le baiser dans les Écritures est souvent l'image concrète de la réconciliation. Baisez le Fils. Soyez donc réconciliés avec lui-même. Selon les révélations du Nouveau Testament, nous dirons, soyez réconciliés avec Dieu par le moyen de cette adorable personne. Il n'y en a qu'un, c'est lui-même, le Fils de son amour. Eh bien, chers amis, le temps passe. Les jours, les semaines, les mois, les années passent. Nous savons que le Seigneur vient, c'est là l'espérance du chrétien, cette espérance dont on nous a parlé tout à l'heure, et qu'en effet, l'apôtre mentionne à plus d'une reprise. Est-ce que cela ne nous montre pas que les frères de Colosse avaient besoin d'être rendus attentifs à une telle espérance, exhortés à la patience d'espérance? Le Seigneur vient. Pour vous, chers amis, qui croyez en lui, aucun doute. Le Seigneur vient. Quand il viendra, vous partirez, nous partirons tous à sa rencontre, en l'air, sur les nuées. Mais si quelqu'un ne connaissait pas encore le Seigneur, nous répétons cet appel. Soyez réconciliés de peur que le Fils ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Celui qui vous est présenté ce soir comme étant le Sauveur qui nous a été donné de la part de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, cette même personne, demain, peut-être le juge. Le juge, c'est-à-dire l'homme qui a été établi par Dieu lui-même pour juger en justice la terre habitée tout entière. Sa colère alors s'irritera et vous périrez dans le chemin. Chers amis, ce soir, ce n'est pas encore trop tard. Venons à lui, le Fils bien-aimé, bien-aimé du Père, celui qui nous a donné pour être notre Sauveur. C'est donc là, chers amis, cette réconciliation dont l'apôtre Paul parle aux frères de Colosse. La réconciliation des choses, la réconciliation des personnes, tout cela en vertu et en vertu seulement de l'œuvre de la croix, du sang de Christ, du fait qu'il est devenu homme pour pouvoir mourir en vertu de sa mort. Et alors, l'apôtre souligne encore une pensée, un but que Dieu s'est proposé en nous donnant le Seigneur Jésus, par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons été ainsi réconciliés avec Dieu? Il est dit au verset 22e, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, c'est la position du chrétien qui est placé devant nous. Nous avons été élus pour être saints et irréprochables. C'est ce que nous sommes, chers amis, selon les conseils de Dieu. Ici, nous avons une pensée un petit peu différente. Si le Seigneur Jésus est venu sur la terre, s'il a laissé sa vie et versé son sang, si par le sang de sa croix il a fait la paix, c'est pour que nous soyons irréprochables, saints et irrépréhensibles en amour. Il y a là une pensée future, comme nous le trouvons par exemple sous la plume d'un autre apôtre, l'apôtre Jude, où à la fin de son épître, il dit ceci, dans cette doxologie que nous connaissons, « Or à celui qui a le pouvoir de vous garder sans vous broncher et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. » Et alors, chers amis, pratiquement, qu'avons-nous à faire? Nous nous réjouissons de ce que, quant à notre position, selon les conseils de Dieu, nous sommes saints et irréprochables. C'est la parole de Dieu qu'il dit, Éphésiens 1, les tout premiers versets. Nous nous réjouissons de ce que l'un des buts de l'œuvre de la croix, c'est de nous présenter tels, saints et irréprochables et irrépréhensibles en amour. Mais maintenant, pratiquement, nous avons à vivre d'une manière qui corresponde à une telle position. Et c'est alors le passage que nous avons dans l'Épître aux Philippiens. Ah, nous ne pouvons pas vivre sur la terre n'importe comment. Nous avons, comme il est dit au verset 14 du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain. » Voilà, chers amis, ce qui nous est demandé, c'est de marcher d'une façon semblable. Il est clair que nous courbons tous la tête en présence d'une telle exhortation. Nous nous rendons bien compte combien nous sommes loin de marcher d'une semblable manière, mais notre pauvreté et notre misère spirituelle n'enlèvent rien à la puissance de la parole de Dieu, à la puissance de l'exhortation qui nous dit que nous avons à marcher d'une manière irréprochable au milieu d'une génération tortue et perverse et que nous avons à reluire tels que des luminaires à la gloire de celui qui nous a aimés jusqu'à la mort pour nous acquérir une rédemption éternelle. Retenons donc ces passages, Éphésiens 1, Philippiens 2, Colossiens 1, et également ces derniers versets de l'Épître de Jude, et tentons de conserver dans nos cœurs le souvenir des différences très grandes qui existent entre ces différents passages. Nous avons la pensée de la grâce de Dieu incontestablement en Éphésiens 1, en Colossiens 1, en Jude 24, nous avons la pensée de notre responsabilité dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Voilà, chers amis, le témoignage auquel nous sommes appelés, le témoignage pratique que nous avons à rendre. Nous le répétons, nous nous sentons petits, et de tels passages comme Philippiens 2 nous humilie beaucoup, parce que nous sommes très loin de réaliser une telle irréprochabilité pratique. Très loin. Mais nous avons la grâce de Dieu, nous avons ces ressources immuables d'une grâce intarissable à notre disposition pour nous aider à marcher mieux dorénavant à la gloire du Seigneur, mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à ce soir. Et celui que Dieu nous a donné est digne, chers amis, que nous marchions d'une façon semblable. Il est digne que nous marchions d'une manière irréprochable. Celui dont l'apôtre nous donne le tableau, un des tableaux les plus élevés et les plus glorieux qui soient, dans ces versets que nous avons lus également, à partir du verset 15e. L'apôtre nous a donc présenté la personne du Fils de l'amour du Père. Il nous a dit quelles étaient les bénédictions que nous avons en lui. Rédemption, rémission des péchés, réconciliation. Il nous a dit également le but de l'œuvre de la croix, le but de la mort de Jésus pour nous, pour que nous soyons saints, irréprochables et irrépréhensibles. Il nous a donc montré, pas seulement les bénédictions que nous avons dans le Seigneur, mais le fondement obligatoire de telles bénédictions. Il nous a montré, autrement dit, l'œuvre de la croix, dans des expressions que nous avons lues plusieurs fois, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Nous avons lu également, il a été parlé du corps de sa chair par la mort. Le Seigneur Jésus est devenu homme pour pouvoir mourir, et en vertu de sa mort, et en vertu de sa résurrection, nous sommes détenteurs et possesseurs de telles bénédictions et pour l'éternité. Mais avant de nous parler ainsi de la réconciliation et du fondement obligatoire d'une telle réconciliation et des autres bénédictions, l'apôtre donne un tableau merveilleux de ce que le Seigneur Jésus est dans sa personne, dans la suite, dans son œuvre, et du point de vue des bénédictions résultant de son œuvre. Mais d'abord, il nous parle de sa personne infiniment glorieuse, au-delà de toute expression, de telle sorte que, chers amis, en lisant les versets semblables, nous sommes comme craintifs. Nous préférions les relire simplement, semblablement, Proverbe 8, semblablement, le début de Jean 1, semblablement, Hébreu 1. Nous préférions relire de telles portions plutôt que de courir le risque de ternir de tels tableaux par des commentaires humains, mais commentaires dont l'Esprit de Dieu veut bien se servir. Il a donc parlé, l'apôtre Paul, du Fils de l'amour du Père. Nous nous répétons peut-être un peu souvent, mais nous le redisons, cette expression, le Fils de son amour, elle est unique. Nous ne la trouvons pas deux fois dans les Écritures. Dans Colossiens 1 et nulle part ailleurs, le Fils de son amour. Qu'est-il le Fils de l'amour du Père? Verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Non pas il a été, ce serait un blasphème. Non pas il est devenu l'image du Dieu invisible, ce serait un autre blasphème. Il est l'image du Dieu invisible. Il est toujours cela. Il est d'éternité en éternité l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'il présente tout ce que Dieu est dans ses caractères, dans ses attributs, dans sa gloire, dans ses perfections. Il est l'image d'un tel Dieu, il présente de tel caractère, de telle gloire, de telle perfection. L'image du Dieu invisible. Un jour, il est venu sur la terre, le Seigneur Jésus. Il est venu sur la terre pour rendre visible celui, comme nous le disons dans le cantique, que jamais œil ne vit. L'apôtre Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le même apôtre Paul, écrivant à Timothée, parle de celui qui habite la lumière inaccessible et qu'aucun œil n'a jamais vu ni ne peut voir. Il est le Dieu invisible et le Fils de son amour est l'image du Dieu invisible. Écrivant aux Corinthiens, l'apôtre Paul emploie une expression assez semblable pour nous montrer la gloire et la grandeur et l'élévation de l'évangile que nous sommes appelés à présenter à quiconque. Que Dieu nous garde de rabaisser l'évangile de son amour. Et c'est pour cela que nous lirons encore cette expression au chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Au chapitre 4 de cette seconde épître aux Corinthiens, il est parlé du travail du diable. Il est dit ceci, au verset 3e, « Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » Ah, chers amis, nous aurions une autre notion, une autre conception de l'évangile de l'amour de Dieu si nous nous souvenions toujours qu'il est cela, la lumière de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Voilà qui nous présentons en présentant Christ, celui qui est l'image du Dieu invisible. Ensuite, l'apôtre dit que il est, nous l'avons lu en Colossiens 1 à la suite de ce verset 15, il est le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a toute suprématie sur la création. La création que nous voyons, la création naturelle, la création physique, il a toute autorité sur la création. Ah, chers amis, nous voulons penser qu'il n'y a personne ici ce soir qui interprétait ce passage, comme hélas, il a été interprété autrefois par certains, le premier-né de toute la création, comme si le Fils de l'amour du Père était, disons, la première créature en dignité. Mais cela est encore un blasphème, et peut-être un blasphème pire que les autres. Non, cette expression « le premier-né » ne veut absolument pas dire cela. Le fait qu'il ait parlé du premier-né fait ressortir toute la majesté et toute l'autorité du Seigneur sur le monde créé, sur l'immense univers dont nous-mêmes, nous ne voyons et ne contemplons qu'une petite partie. Et pour aider à comprendre le sens de ce deuxième caractère du Seigneur, nous rappellerons un passage de l'Ancien Testament, un passage du psaume 89. Du reste, nous n'aurions pas nécessairement besoin du passage du psaume 89 pour être absolument clair à l'égard de ce passage, parce que la suite nous montre clairement qu'il est le Créateur, et plus que cela, qu'il était avant toute chose créée. Évidemment que pour être le Créateur, il faut être avant les choses créées, par celui qui est le Créateur. Lisons cependant ce verset très instructif au psaume 89, où il est question de Salomon et même de celui qu'il devait représenter, un plus grand que Salomon, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Et ainsi au psaume 89, nous lisons ce verset à la fin de la page. Psaume 89. Ce psaume qui est une instruction des temps, un auteur qui a écrit ce seul psaume 89, et il nous est dit, c'est pas à la fin de la page, c'est au haut de la page suivante, il nous est dit, aussi moi, verset 27, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Nous avons donc là la signification de ce caractère de premier-né. Le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. Voilà ce que Dieu a en fait fait de Salomon. Et voici ce que le Seigneur un jour sera sur la terre, au jour de sa gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, celui qui aura toute autorité sur tous les rois de la terre. Eh bien voilà, chers amis, le sens de cette expression, le premier-né de la création, c'est-à-dire celui qui a toute autorité sur la création visible et invisible aussi, sur toutes choses créées et qui ont été créées par lui-même. Alors, dans les versets suivants, nous avons sa gloire de créateur. Mais vous voyez combien la liaison est établie entre le verset 15 et 16, ou disons la première partie du verset 16, et la suite. Le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Voici la gloire d'un tel Seigneur, notre Sauveur, n'est rien d'autre que cela. Le Créateur lui-même, nous comprenons très bien qu'il ne saurait être question, et combien nous disons cela en tremblant, question d'une créature la plus élevée en dignité, non, le premier-né de toute la création, c'est celui qui a toute autorité sur la création, c'est celui qui l'a créé lui-même, il a créé toute chose. Nous remarquons qu'en rapport avec les choses au verset 16, il est dit « Par lui ont été créées toutes choses ». Si nous prenions une ancienne version de notre Bible, nous verrions que là, il y a une note qui nous dit que nous pourrions très bien traduire « En lui ont été créées toutes choses ». Et alors, un autre mot que nous avons à la fin du verset 16, « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui ». Ainsi donc, toutes choses créées en lui, par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées en lui, c'est-à-dire qu'en lui se trouve toute la puissance créatrice. Toute la puissance créative, toutes choses en effet, ont été créés par lui, ayant en lui-même la puissance créatrice pour cela. Et puis, toutes choses ont été créées pour lui, toutes choses lui appartiennent, il possède toutes choses, il a tout droit sur toutes choses créées par lui-même. Elle est grande, la gloire de notre Créateur. Et notre Créateur, c'est le Seigneur Jésus lui-même, c'est le Fils de l'amour du Père. Puis nous avons la pensée de sa préexistence. Au verset 17, et lui est avant toute chose. Nous avons là sa préexistence éternelle, parce que nous savons par d'autres passages que le Seigneur est le Fils éternel du Père, il est Dieu lui-même d'éternité en éternité. Du reste, au jour de sa chair, il a pu dire, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le je suis, celui qui est toujours, depuis toujours et pour toujours, celui qui si souvent dans l'évangile de sa divinité dit, je suis. Ah, quand il dit, je suis la porte, je suis le bon berger. Ah, chers amis, nous aimons à nous arrêter à ces différents caractères, le bon berger, la porte, le pain de vie, nous avons raison, mais il faut aussi noter la force du « je suis ». « Je suis » qui n'est personne d'autre que celui qui a donné son nom à Moïse au chapitre 3 du livre de l'Exode, quand il dit « je suis celui qui suis ». Celui qui a dit « je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie », c'était personne d'autre que « je suis celui qui suis, celui qui est depuis toujours et qui est pour toujours ». Nous avons là sa préexistence éternelle, il est avant toute chose. Et maintenant, chers amis, comment est-ce que ces toutes choses subsistent ? Elles ont été créées, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elles soient maintenues ? Faut-il qu'elle subsiste par un moyen? Elle subsiste comment? Par lui-même encore, comme il est dit, et toute chose subsiste par lui. Le Seigneur, créateur de toutes choses, les a tirées du néant. S'il ne les maintenait pas, si elles n'étaient pas soutenues par la parole de sa puissance, toutes ces choses créées, il y a longtemps, seraient retournées dans le néant. S'il les a créées, s'il les a fait sortir du néant, c'est pas pour qu'elles retournent dans le néant. Et s'il n'y avait pas, Seigneur, pour maintenir cet ordre merveilleux de la création physique que nous contemplons, s'il n'y avait pas le Seigneur pour les maintenir par la parole de sa puissance, il y a longtemps que ce serait le désordre, que ce serait le néant lui-même. Mais voici, toutes choses sont maintenues par la parole de sa puissance, toutes choses subsistent par lui-même. Voilà, chers amis, nous avons jusqu'ici le tableau de ce que le Seigneur est depuis toujours. Il est l'image du Dieu invisible, il est le premier-né de toute la création, il est le Créateur, et il existe donc avant toute chose créée, et c'est par lui que subsistent toutes les choses créées. Nous sommes donc en contact avec l'actuelle création, avec la création naturelle, la création physique. Maintenant, nous passons dans un autre domaine, toujours en rapport avec la glorieuse personne du Fils de l'amour du Père. Et l'apôtre continue en disant, et il est. Notez, chers amis, il est. Il est le chef du corps de l'assemblée. Nous passons donc à un tout autre domaine. Nous passons à une autre création. Cette création qui est appelée au début de l'épître, adressée à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, le commencement de la création de Dieu. Qu'est-ce qui appartient à cette création de Dieu? Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui et en l'œuvre de la croix, ils appartiennent à cette création de Dieu. Lui qui est le commencement. Mais d'abord, il est dit, lui qui est le chef du corps de l'assemblée. Le chef du corps de Christ, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le corps de Christ dans la première épître aux Corinthiens. et duquel les frères se sont occupés pendant les journées d'études précédentes, le corps de Christ. Eh bien, le Seigneur en est le chef, mais aussi la tête. Le mot de l'original peut être traduit par ces deux termes. Il est le chef et il est la tête. Il est le chef du corps, c'est-à-dire qu'il a toute autorité sur ceux qui composent ce corps, qui en sont les membres. Les membres du corps de Christ, ce sont les croyants. Tous les croyants constituent ce corps. La collectivité chrétienne est ainsi comparée à un corps, le corps de Christ, et chaque croyant est un membre de ce corps. Et le Seigneur est le chef de ce corps. Il a toute autorité sur ceux qui sont ses rachetés. Il est le chef. Cela ne fait pas de doute. Mais il est aussi la tête. Et alors, dans ce caractère de tête, il y a quelque chose certainement de plus intime. Quelque chose qui fait ressortir la liaison intime qui existe entre lui-même et nous-mêmes. Lui, il est la tête du corps. Elle est maintenant glorifiée dans le ciel. Et nous tous, nous sommes chacun les membres ou les organes de ce corps. Et pour vivre, nous avons absolument besoin de la tête. De la tête du corps. La tête qui est Christ lui-même glorifié dans le ciel. Il y a trois épîtres qui d'une façon particulière parlent du corps de Christ. C'est la première épître aux Corinthiens, c'est l'épître aux Éphésiens, et puis notre épître aux Colossiens, quoiqu'elle en parle moins longuement que les autres épîtres. On a dit que dans la première épître aux Corinthiens, nous avions la tête et le corps. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous avons le corps de la tête. Et puis alors, dans notre épître aux Colossiens, nous avons la tête du corps. Avant-hier, nous avons dit que l'épître aux Colossiens était l'épître du Seigneur. C'est l'épître de la tête du corps. Comme dans l'épître aux Éphésiens, nous avons bien davantage la pensée du fonctionnement du corps, le corps de la tête. Il est parlé des dons qui sont donnés en Éphésiens 4, qui sont donnés par le Seigneur à l'Assemblée. Il est monté en haut, il a donné des dons aux hommes en Éphésiens 4. En 1 Corinthiens 12, les dons sont communiqués à l'Assemblée par le Saint-Esprit lui-même. Les manifestations spirituelles, avons-nous lu. Et enfin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, où incidemment, il est parlé de l'Assemblée, nous avons alors les dons qui sont confiés par Dieu lui-même. Le nom de Dieu est extrêmement fréquemment répété dans l'Épître aux Romains. Les dons pour l'heureux fonctionnement du corps. Nous avons donc là, bien plus spécialement, la pensée de la tête du corps. Lui qui est la tête du corps, de l'Assemblée ou de l'Église. L'Assemblée ou l'Église. Que veut dire ce mot Assemblée? Que veut dire ce mot Église? Ce mot Église qui est directement le terme grec. L'Ecclésia, l'Ecclésie, l'Église. L'Église, et le mot Église veut dire qui est tiré hors de la masse, hors du peuple, qui est tiré par l'amour de Dieu pour appartenir à lui-même, pour appartenir au Seigneur, tiré hors de, voilà la pensée que nous avons dans le mot Église ou Assemblée. Eh bien, chers amis, nous sommes tous ceux qui croient des membres du corps. Et à cet égard, je m'adresse spécialement aux frères et aux sœurs, aux jeunes frères, aux jeunes sœurs également. Il y a quelquefois une expression que nous entendons et qui n'est pas scripturaire. Cette expression est celle-ci. On parle des membres de l'Assemblée de Dieu. Cette expression ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Il est parlé des membres du corps de Christ, mais pas des membres de l'Assemblée de Dieu. sur la terre, dans le monde. Les hommes appartiennent à des sociétés, ils sont membres de telle ou telle société, et ils se glorifient d'être les membres de 10, 12, 20 sociétés. On est membre d'une société dans ce monde, sur cette terre. Mais s'il s'agit de l'assemblée de Dieu, nous avons le bonheur d'appartenir à l'assemblée de Dieu, mais s'il est question de membres, nous sommes des membres du corps de Christ, et non pas membres de l'assemblée ou membres d'une assemblée locale. Puissions-nous retenir cette remarque. Et puis l'apôtre continue, le temps avance, lui qui est donc le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, c'est-à-dire le commencement de cette nouvelle création, de la création de Dieu, à laquelle appartiennent tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Il semble qu'un passage de l'épître de Jacques peut nous aider aussi à entrer dans la compréhension de cette pensée, quand Jacques dit « de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures ». Nous appartenons à la création de Dieu, et celui qui en est le commencement, c'est le Fils de son amour. Puis il est dit, le premier-né d'entre les morts. Ah, chers amis, il fallait quand même arriver à la pensée. Quand nous nous exprimons ainsi, nous pensons à nous-mêmes, nous ne pensons pas à l'apôtre. Il est clair qu'il devait être fait mention de la résurrection du Seigneur. S'il s'agit de la création actuelle, il est le premier-né de toute la création. S'il s'agit de la création de Dieu, de cette création à laquelle tout enfant de Dieu appartient, eh bien, le Seigneur Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et nous avons là la pensée obligatoire de sa résurrection. Le Seigneur est ressuscité de telle sorte que s'il existe un corps, s'il existe une assemblée, c'est en vertu de sa mort et de sa résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, dit Paul aux Corinthiens. Mais Christ est réellement ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts. Et c'est sur lui-même qu'est fondée cette assemblée, sur ce roc, dit-il, je bâtirai mon assemblée, et ce roc, c'est personne d'autre que le Fils du Dieu vivant. Alors, afin qu'il tienne en toutes choses la première place. Nous avons tout de suite terminé, chers amis. Afin qu'en toutes choses, il tienne, lui, la première place. Et là encore, nous nous permettons modestement d'attirer l'attention sur le fait suivant. Nous avons trop la tendance de limiter la portée d'un tel passage. Nous comprenons fort bien que nous désirions que le Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, tienne, lui, la première place. Mais la portée du passage va bien au-delà. Si l'apôtre nous parle de sa suprématie, de son autorité, de ses diverses primautés, c'est pour nous montrer que en toutes choses, dans les cieux et sur la terre, partout, dans l'univers tout entier, qu'en toutes choses, qu'il s'agisse de la création actuelle, qu'il s'agisse de la création nouvelle, la création de Dieu, qu'en toutes choses, ce soit lui et lui seul qui tienne la première place. Mais nous comprenons fort bien que du point de vue pratique, nous aimons à appliquer ce passage à nous-mêmes en exprimant le désir que notre Seigneur bien-aimé tienne dans nos cœurs et dans nos vies la première place et que nous puissions tous avoir un tel désir en attendant le jour où dans nos cœurs, remplis de sa grâce, il occupera alors, il aura toute la place, dans l'éternité, auprès du Seigneur, il en sera ainsi. dans nos cœurs, il aura toute la place. Que pour le temps présent, ce soit lui-même qui tienne dans nos cœurs la première place. Il y a tellement de choses qui viennent prendre en fait la première place. On passe une vie entière en s'occupant premièrement de toutes sortes de choses. Et en fait, le Seigneur n'a pas dans nos cœurs, n'a pas dans nos vies la première place. Et les années passent, et les jours de l'âge avancé arrivent, et l'on exprime alors des regrets. On a même de l'amertume, et nous avons entendu plusieurs d'entre nous des témoignages rendus par des frères pieux et sincères qui sont occupés de beaucoup de choses dans leur vie, où le Seigneur n'avait certainement pas la première place dans leur cœur, qui alors, voyant le terme du voyage s'approcher, ont fait cette remarquable confession que durant leur vie, le Seigneur n'avait pas tenu dans leur cœur la première place. Et ils le regrettaient, ils en avaient de l'amertume, mais pour les quelques jours que le Seigneur leur accordait encore, alors combien heureux ils étaient de réaliser, d'accorder dans leur cœur au Seigneur la première place. Et enfin, conclusion de ce que nous pensions dire ce soir, et ce qui termine ce glorieux tableau, somme toute, disons, le sujet principal de ce troisième tableau dont nous parlions avant-hier, car, verset 19, en lui toute la plénitude s'est plu à habiter et par lui à réconcilier, nous retrouvons de nouveau le sujet de la réconciliation. Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter. Lisons encore le verset 9 du chapitre 2. Toute la plénitude de la déité s'est plu à habiter en lui corporellement. La déité est quelque chose de plus que la divinité. La déité... c'est ce que Dieu est en lui-même d'une façon absolue, sans aucune comparaison possible. C'est ce que Dieu est dans son essence d'une manière absolue. C'est cela la déité. La divinité existe, si nous osons dire ainsi, en contraste avec l'humanité. La déité, c'est le sens le plus absolu qui soit de ce que Dieu est en lui-même. Eh bien, toute la plénitude de la déité s'est plu à habiter en Christ corporellement. Il a été en effet, nous ne voulons pas répéter ce que nous avons dit avant-hier, il a été vu sur cette terre corporellement, un homme, il a été en effet toujours véritablement Dieu quand il est devenu véritablement homme. Véritablement Dieu, véritablement homme, les évangiles sont là pour nous le montrer à de multiples occasions. Nous avons cité le cas de la résurrection de Lazare. Citons le cas où il est dit du Seigneur Jésus qu'il a eu faim. Il arriva qu'un matin, il eut faim. Le Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, a eu faim comme chacun de nous. Il était parfaitement homme. Voilà pourquoi il a eu faim. Et alors, s'approchant d'un figuier, il en était le créateur, il était en droit de demander des fruits de ce figuier, et voici que ce figuier n'avait aucun fruit, il n'avait que des feuilles. Alors le Seigneur Jésus le maudit, et à l'instant le figuier sécha. Le Seigneur Jésus a eu faim parce qu'il était parfaitement homme. Il maudit un figuier, et à l'instant le figuier sèche, parce qu'il était parfaitement Dieu. Voilà un autre épisode où nous voyons toute cette plénitude de la déité qui s'est plu à habiter en lui corporellement. Et il y aurait d'autres passages. Le passage, l'épisode de la tempête éclatant sur la mer, quand nous voyons le Seigneur Jésus dormant. Il dort. Et l'un des évangiles nous donne encore un détail pour nous faire ressortir plus encore la perfection de son humanité. En nous parlant d'un oreiller, il avait la tête appuyée sur un oreiller, il dormait, il était parfaitement calme. Et voici qu'au sein de la tempête, il se lève, et il dit au vent de se calmer, et à la mer de s'apaiser, et tout rentre dans l'ordre, et les disciples sont étonnés, effrayés même, qui est donc celui-ci auquel les éléments déchaînés obéissent. Il était parfaitement homme, il dormait. Il fait rentrer dans l'ordre les éléments déchaînés, il était parfaitement Dieu. Eh bien voilà, chers amis, ce glorieux mystère de l'incarnation qui vient, pour ainsi dire, s'ajouter et conclure ou clore l'admirable tableau, l'un des plus beaux qui soit, que l'apôtre nous donne de l'adorable personne du Fils de l'amour de Dieu. Puissions-nous y revenir, chers amis, relire encore de tels passages, que Dieu nous garde de les lire, de tels versets, avec superficialité, que nous soyons toujours pénétrés de la grandeur d'un tel passage, quand nous le lisons pour nous-mêmes, quand nous le lisons avec nos enfants, quand nous lisons au milieu de l'assemblée, que nous soyons pénétrés de l'élévation d'un tel sujet, et que nous puissions un peu mieux, et toujours mieux, nous rendre compte de la grandeur infinie de celui qui a bien voulu devenir notre Sauveur, l'auteur de notre salut éternel. Nous redisons avec le cantique « À toi, sois la gloire, ô Fils éternel, ta mort, ta victoire nous ouvrit le ciel, à toi qui nous aimes pour l'éternité, louange suprême, force et majesté ».